RMC, Bourdin Direct.
Bien, il est 8h36, Marisol Touraine est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Marisol Touraine, nous sommes à la radio, sur BFM TV, les images viennent de Bruxelles. Double explosion à l'aéroport Zaventem. À Bruxelles, pour l'instant, nous n'avons pas... Il y aurait des blessés, mais nous parlerons au conditionnel. Nous n'avons pas de précisions supplémentaires. Il est évident que nous donnerons ces précisions tout au long de votre...
Et nous sommes tous très attentifs à la situation dans cet aéroport. Nous vivons une période où chaque accident oblige à redoubler de vigilance. Et nous voyons que nous ne sommes pas sorti de la période difficile que nous avons connue en 2015. Le terrorisme est là. Et d'ailleurs, le président de la République l'a rappelé lorsqu'il y a eu l'arrestation il y a quelques jours d'Abdeslam. C'est une victoire qui a été remportée, mais d'autres batailles sont à mener.
Bien, une double explosion donc qui s'est produite ce matin dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles. Sans que l'origine de l'incident ait été déterminée pour l'instant, plusieurs personnes auraient été blessées dans cet incident et les liaisons ferroviaires. L'aéroport a été fermé et les liaisons ferroviaires à destination de cet aéroport de Zaventem ont été suspendues. Encore une fois, dès que nous avons de nouvelles informations, nous vous les donnons. Bien, Marisol Touraine, j'ai une première question concernant le virus Zika. Est-ce que vous confirmez un premier cas de microcéphalie lié à Zika en France ?
Nous avons une suspicion très sérieuse. Je vous rappelle que le virus Zika, qui aujourd'hui a touché plus de 15 000 personnes aux Antilles et en Guyane, représente un risque particulier pour les femmes enceintes. Pas uniquement pour elles, mais principalement pour les femmes enceintes. Il y a environ 130 femmes enceintes qui, dans ces départements, ont été identifiées comme ayant été touchées par le virus du Zika. Et pour l'une d'entre elles, nous avons des éléments laissant penser que son bébé est atteint de microcéphalie et que cette microcéphalie est directement liée à son infection par le virus. Zika. Je ne veux pas me prononcer de manière définitive car nous sommes en attente des résultats des derniers examens, mais disons que tous les éléments dont nous disposons vont dans ce sens-là aujourd'hui.
Où ? À quel endroit ?
En Martinique.
En Martinique. Je rappelle que la microcéphalie est une anomalie de la croissance de la boîte crânienne.
C'est
avec
cela.
Un diamètre de la tête inférieur à la normale.
Et nous l'avons constaté de façon très répétée en Polynésie lorsqu'il y a eu une épidémie de Zika. On l'a constaté au Brésil et nous avons désormais, semble-t-il, un cas.
Et savez-vous comment le virus a été transmis ?
Le virus a été transmis a priori par le moustique, c'est-à-dire de la manière la plus classique qui soit, et c'est face au moustique qu'il faut d'abord se protéger, même si d'autres modes de contamination sont probables, mais le mode de contamination principal, c'est le moustique.
Bien, autre actualité du jour, journée de grève nationale des infirmières et infirmiers anesthésistes. Alors, est-ce que vous allez accorder aux infirmières et infirmiers anesthésistes le statut de profession intermédiaire ?
Les infirmiers anesthésistes, ce sont des collaborateurs tout à fait nécessaires des médecins anesthésistes réanimateurs dans les blocs opératoires.
Oui, oui.
Et ils souhaitent que soit revue la définition de leur exercice professionnel. Des discussions ont été engagées depuis plusieurs mois, depuis le mois d'octobre, au ministère de la Santé. Ces anesthésistes, leurs représentants, seront reçus cet après-midi par mon cabinet, les représentants donc des infirmiers anesthésistes. Et nous allons poursuivre le travail. J'espère qu'à l'été prochain, nous serons en mesure de voir les éléments à partir desquels nous pourrons faire évoluer
Attendez, vous les avez
profession.
Cet après-midi, les éléments, vous
mais
les connaissez.
Ça fait
des semaines et des semaines qu'ils manifestent, qu'ils sont en grève, qu'ils écrivent.
Non, ça fait pas des semaines. Ça fait des semaines qu'ils
c'est
demandent.
C'est temps de formation. C'est temps de formation. Hein, on est bien d'accord.
Vous savez, nous avons eu des débats
études
avec d'autres
niveau master, mais le salaire n'est pas au niveau master. Est-ce
mais
normal ?
Il y a des discussions de nature différente. Il y a des discussions sur l'organisation du métier. la manière dont s'organisent les relations entre les médecins et les infirmiers anesthésistes. Et il y a des discussions sur les salaires. Donc c'est de tout cela que nous discutons. Mais les discussions, elles doivent aussi avoir lieu avec les médecins, puisque par définition, les infirmiers anesthésistes et les médecins anesthésistes réanimateurs travaillent ensemble. Et le travail se poursuit. Travail est prévu jusqu'à l'été. Bon. Je souhaite que ce travail
Qu'on leur accorde le statut de profession intermédiaire.
Le travail se poursuit.
Mais est-ce que vous le souhaitez ?
Des négociations sont engagées, Jean-Jacques Bourdin. Je ne vais pas aujourd'hui, avant même qu'il ne soit reçu, avant même que les discussions ne soient terminées, clore le débat. Des discussions sont engagées et je suis très attentive à leur situation.
Les infirmières et infirmiers libéraux maintenant, je vous donne simplement, je lis simplement deux messages que j'ai reçu. Le premier de Jessica. J'ai ouvert mon cabinet il y a 3 ans dans la Manche, en pleine campagne, et je vois les conditions de travail se dégrader au fil des années. Pour des économies à faire, la population vieillit et de moins en moins peuvent se déplacer au centre de soins. Les soins infirmiers à domicile sont essentiels dans la conjoncture actuelle où on manque de médecins. Trouvez-vous normal qu'une infirmière libérale, c'est ce que nous dit Christine, soit indemnisée 2,50 € de déplacement alors qu'un médecin touche 10 €? Trouvez-vous normal que pour une toilette d'une heure, nous gagnons 15,90 € brut, moins les charges, cela équivaut à 7,95 € net, le taux le plus bas parmi toutes les professions.
Les infirmières et d'autres professionnels, d'ailleurs, font un travail absolument indispensable pour maintenir à domicile des malades, des personnes âgées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des ressources complémentaires ont été dégagées pour faire en sorte que nous puissions prendre en charge ces soins à domicile. Parce que si les personnes ne sont pas prises en charge à domicile, elles le sont à l'hôpital et on sait que ça coûte très cher et que ça n'est pas nécessairement bon ni pour le moral, ni d'ailleurs pour la santé. Quand vous regardez l'évolution des dépenses de l'assurance maladie, Jean-Jacques Bourdin, les dépenses qui ont le plus augmenté, ce sont celles des professions paramédicales à domicile. Cela prouve bien qu'il y a un engagement de la sécurité sociale pour ces professionnels, parce qu'il y a de plus en plus de déplacements.
Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de colère ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'incompréhension ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de...
Il y a des demandes que j'entends. Il y a la volonté d'être parfaitement reconnu dans son métier et j'entends ces demandes
de revalorisation. Contre 10 € pour un médecin, est-ce que c'est normal ?
Régulièrement, il y a des discussions avec l'assurance maladie sur le montant des tarifs et des discussions
Vous souhaitez que ça soit
relevé ? Il n'y a pas de discussion. En ce moment, nous sommes en train de négocier avec les médecins. La sécurité sociale est en train de négocier avec les médecins et vous le savez, c'est la sécurité sociale qui négocie. La négociation vient de commencer et l'aboutissement est attendu à la fin de l'été. Donc nous avons plusieurs mois de négociations devant nous et nous sommes attentifs. La sécurité sociale, l'assurance maladie,
Donc rien de nouveau pour les infirmières et
infirmiers
libéraux.
Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion qui est engagée. Lorsque viendra la négociation avec les infirmières, nous verrons ce qui est possible de faire.
Le prix des médicaments. Ce matin, j'avais l'un des signataires, professeur d'hématologie, l'un des signataires de la Tribune, publiée dans la presse récemment. Oui, Jean-Paul Vernant. Sur le prix des médicaments. Parce que ce qu'il nous a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, les traitements sont tellement lourds, que... ils sont rendus parfois inaccessibles à certains. Heureusement, il y a encore la sécurité sociale en France, donc la solidarité, mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer.
Il faut dire qu'en France, personne ne se voit privé de traitement pour des raisons financières.
Pour l'instant.
Non. Pour le moment, et c'est en tout cas la volonté d'inscrire cela dans la durée. En France, on ne dit pas non à un malade pour des raisons financières. Nous avons aujourd'hui le fait qu'il y a une innovation, comme il n'y en a pas eu depuis des années, dans le domaine des médicaments. De nouveaux médicaments arrivent, qui peuvent soigner mieux, parfois guérir, c'est le cas du médicament contre l'hépatite C, mais ils arrivent à des prix qui sont des prix insoutenable, je le dis, insoutenable dans la durée. Et je l'ai dit, ce que je dis à ce micro, je l'ai dit aux industriels, notamment lors du forum de Davos, et je leur ai dit, nous devons discuter de la manière de définir les prix d'une façon qui soit supportable pour la sécurité sociale française ou pour les autres systèmes dans les autres pays, et puis qui évidemment garantissent le retour sur investissement pour les industriels. C'est normal que ces industriels souhaitent avoir un retour sur investissement. Aujourd'hui, ils pratiquent des prix ou ils annoncent des prix qui ne peuvent pas être tenus par les systèmes d'assurance maladie. Donc le président de la République devrait annoncer demain qu'il va porter ce sujet au niveau des chefs d'État du G7. C'est une initiative
que va-t-il demander
qu'il y ait une coopération entre les pays. Aujourd'hui, chaque pays négocie dans son couloir, si j'ose dire. Et nous ne pouvons pas échanger des informations les uns avec les autres.
Donc, négociation globale sur les prix des médicaments.
Pas forcément une négociation globale, mais nous devons déterminer un processus. Voir comment ensemble être plus fort pour faire pression sur les prix des médicaments. Lorsque est arrivé le médicament contre l'hépatite C, j'avais saisi mes homologues européens et je leur avais dit nous ne pouvons pas rester tout seuls. Chaque pays isolé, des mesures peuvent être prises au niveau national et j'en ai pris. Jean-Jacques Bourdin. Dans la loi, j'ai inscrit un mécanisme de régulation qui veut dire que plus on augmente la dépense en médicaments, plus la marge qui est donnée à l'industriel diminue. Et j'ai indiqué que nous n'allions pas consacrer davantage
aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques font plus de bénéfices que d'investissements dans la recherche. Est-ce normal ? Est-ce correct ?
Mais là, nous nous retrouvons. Il faut que les industriels comprennent qu'ils ne pourront pas tenir, il n'est même pas dans leur intérêt de maintenir des prix ou d'annoncer des prix qui seraient des prix inaccessibles. Et je crois que nous devons trouver un terrain d'entente, un terrain de discussion. En tout cas, au niveau national, je fais tout ce qui est possible de faire. La France a négocié de manière extrêmement dure et âpre le prix du médicament contre l'hépatite C. Ce médicament reste trop cher. En France, mais il est moins cher en France que dans d'autres pays.
Les vaccins, maintenant, parce que où est-ce qu'on en est avec le DT polio ? Est-ce que on va pouvoir le retrouver dans les pharmacies ? Est-ce qu'il va être à nouveau utilisable à la disposition des parents ?
Il y a eu des périodes
de pénurie. Bon, est-ce qu'elle est terminée, cette période de pénurie ?
Nous sommes rentrés dans une période où les vaccins sont disponibles et je suis extrêmement vigilante. J'ai été préoccupée au point que l'ensemble des vaccins.
Même le DT polio ?
Le DT polio est disponible dans certains lieux.
Pour l'instant, il ne l'est pas, d'après tous les messages que j'ai reçu.
Nous faisons en sorte que les stocks soient évalués. J'ai convoqué l'ensemble des industriels producteurs de vaccins. Et je leur ai dit qu'il n'était pas acceptable que les vaccins ne soient pas disponibles dans les pharmacies lorsque les parents le souhaitent.
Ils le seront quand ?
Ils sont disponibles régulièrement. Il faut parfois attendre quelques jours pour
en disposer.
Pas
plus que quelques jours, plusieurs semaines même.
Normalement, c'est quelques jours, mais nous sommes attentifs et je suis la situation des stocks. Il y a eu des tensions d'approvisionnement, mais les industriels remettent l'état de leur stock désormais au ministère et doivent me présenter d'ici l'été un plan de mobilisation pour garantir l'approvisionnement régulier des pharmacies françaises.
Avant l'été, les pharmacies françaises seront approvisionnées en DT polio. On
normalement,
est bien d'accord.
Elles le sont actuellement, avec parfois quelques difficultés à quelques jours près. Mais nous devons avoir une visibilité à plusieurs semaines et à plusieurs mois. Et c'est cela que j'ai demandé aux industriels de me proposer, de me présenter un plan, si vous voulez, de perspective pour l'avenir des vaccins.
Bien, autre sujet, le tabac. Oui, le tabac. Le paquet neutre sera chez les buralistes le 20 mai. On est bien d'accord.
À
partir du 20 mai.
Oui.
Jusqu'à quand les buralistes pourront écouler leur paquet non neutre.
Jusqu'à la fin de l'année. Quelle est la situation ? Aujourd'hui, j'ai décidé, enfin il y a quelques mois, j'ai décidé que nous allions introduire le paquet neutre en France. Pourquoi est-ce qu'on a introduit le paquet neutre ? Parce que nous nous apercevons que dans notre pays, les jeunes fument de plus en plus. Et les jeunes sont particulièrement sensibles au marketing des paquets de cigarettes. Ils sont sensibles aux couleurs, à la forme des paquets. Le paquet neutre, l'objectif, c'est précisément de casser l'attrait que représente la pub, en quelque sorte, sur le paquet de cigarettes. Les paquets neutres, à partir du 20 mai prochain, les fabricants de tabac seront obligés de les produire pour la France. Donc les fabricants, à partir du 20 mai prochain, ne pourront plus fabriquer des paquets comme on en a aujourd'hui. Ils disposeront de 6 mois pour écouler leur stock, et les distributeurs aussi, de 6 mois. Puis les bureaux de tabac auront quelques semaines supplémentaires pour écouler leur stock. Tout cela nous amène au 31 décembre de cette année. Ce qui veut dire que entre le 20 mai et le 31 décembre 2016, il y aura progressivement une coexistence des paquets d'aujourd'hui et des paquets neutres dans les bureaux de tabac. Et puis à partir du 1er janvier 2017, il n'y aura plus que des paquets neutres, et cela représente une avancée. Mais vous savez, Jean-Jacques Bourdin, je voudrais dire aussi que moi je me réjouis de voir tout le débat qui a entouré le paquet neutre. Parce que cela prouve que la question de la lutte contre le tabac...
Mais moi je ne me réjouis pas, je ne comprends pas pourquoi le paquet de cigarettes n'est pas encore à 10 euros. À cause de Bercy ?
Eh bien,
à cause de Bercy, Marisol Touraine.
Il y a eu un plan global, et j'ai été extrêmement claire lorsque j'ai présenté ce plan. Attendez, Jean-Jacques Bourdin, laissez-moi m'exprimer.
Allez-y.
J'ai dit, nous mettons en place le paquet neutre et nous maintenons un prix du tabac qui, après une augmentation significative, plus 1 euro, restera stable à quelques dizaines de centimes.
Est-ce que le tabac... Pouvoir finir, mais je vous pose une question complémentaire. Est-ce que le prix du tabac va augmenter avant la fin du quinquennat?
Je le souhaite, mais Jean-Jacques Bourdin...
Mais Bercy ne le souhaite pas.
Je le souhaite, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve formidable que le débat sur le prix du tabac arrive dans l'espace public, parce que il y a un an, il y a 2 ans, on me disait, mais lorsque je parlais d'augmenter le prix du tabac, ou lorsque je l'ai fait, on me disait, mais c'est scandaleux, vous favorisez le commerce illicite, vous favorisez la contrebande, et depuis que j'ai annoncé que nous mettions en place le paquet neutre, alors on m'explique, ah mais le paquet neutre, c'est pas ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait faire, c'est augmenter le prix du tabac. Donc je trouve formidable que le débat se soit installé dans notre pays, et je le prends pour le gage d'une volonté d'avancer.
Alors, volonté
d'avancer. Le paquet neutre, et pour
ma part, il y aura une augmentation avant la fin du quinquennat.
Je le souhaite. Nous allons discuter. Nous verrons lorsque les textes financiers arriveront. Nous allons discuter. Je ne suis évidemment pas
seul. Il suffit que le gouvernement le décide.
Il suffit de le décider, pas moi seul. Et donc, moi, je porterai, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je porterai la nécessité d'une augmentation du prix du tabac. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous mettons en place le paquet neutre. Et ce paquet neutre, il représente une avancée extrêmement importante et un changement très important. La France sera le premier pays européen dans lequel il y aura des paquets neutres, suivi de très près par la Grande-Bretagne et l'Irlande, quelques semaines après.
Bien, j'ai 2 questions. L'autisme, parce qu'on m'a demandé, SOS Autisme a lancé hier une grande campagne de sensibilisation, je suis autiste, et alors 10 mesures demandées, notamment la gratuité des soins et de la prise en charge, la généralisation de l'accueil des enfants autistes dans les écoles, la création d'une filière spécialisée pour former des auxiliaires de vie scolaire à la prise en charge des enfants autistes, et puis la création de filières universitaires pour former des psychologues. Qu'est-ce que vous allez annoncer? Qu'est-ce que vous leur dites?
Un gros effort a été engagé en direction des enfants autistes, même s'il n'est pas suffisant, puisque nous ne sommes pas encore à une prise en charge complète de 100% des enfants autistes. Mais ce gouvernement a fait des efforts comme il n'y en avait pas eu précédemment, notamment pour mettre en place dans les écoles des auxiliaires de vie scolaire et des personnes qui sont formés et qui sont désormais plus de 800 000 dans les écoles. Nous avons mis en place des classes spécialisées pour les enfants autistes avec un faible nombre d'enfants accueillis, avec des enseignants qui ont été formés, honnêtement, ce gouvernement, notamment non, là, à l'éducation nationale, a réalisé pas, un engagement
extrêmement fort. Mais quand j'entends les associations...
Vous savez, les associations, oui. Je les entends,
mais
et elles sont dans
des
leur
soins
rôle.
Et de la prise en charge, je dis
elles
non.
Sont, elles, vous si, dites mais non. Bien sûr qu'il faut garantir les soins. Quel est le sujet? Parce que dans notre pays, les oui. soins sont pris en charge oui, pour oui, tout le monde, mais... notamment à 100%. Le sujet, quel est-il? Il est difficile. Il y a eu une tradition de prise en charge par les psychiatres. Oui. Des enfants autistes. Désormais, il est considéré que cette prise en charge n'est pas celle qui convient. Et la Haute Autorité de Santé a oui. émis des recommandations il y a quelques années, disant qu'il fallait d'autres prises en charge. Et donc, comme il n'y avait pas les autres structures de prise en charge, mais qu'il y avait des structures psychiatriques, le passage, la transition d'une prise en charge par les psychiatres vers une prise en charge différente met un peu de temps, et c'est cela qui est en jeu, mais je veux dire ma volonté, ma détermination à faire en sorte que la meilleure prise en charge puisse être accordée.
Une aide fiscale pour les parents ? Une aide fiscale pour les parents ?
Écoutez, les prises en charge de santé sont réalisées. C'est dans ce domaine social que nous essayons de trouver les meilleures réponses.
Bien, merci. Un mot quand même sur la réforme du Code du travail, juste un mot. Colère, là encore, ouais, il y a beaucoup de colère. Hein. Colère, là encore, des médecins,
du travail.
Eh ben, évidemment, puisque le texte du gouvernement prévoit de supprimer la visite systématique d'aptitude à l'embauche.
Vous savez, aujourd'hui, elle n'a pas toujours lieu. Des discussions ont eu lieu avec les professionnels. L'enjeu, c'est de se donner les moyens de véritablement identifier ceux qui ont des difficultés,
donc,
ceux qui souffrent.
Vous gardez la suppression de cette visite.
Il s'agit d'avoir une visite ciblée, adaptée aux personnes qui sont malades ou en situation de souffrance. C'est de la responsabilité, je tiens à le dire, du ministère du Travail. Hein. La médecine du travail dépend du ministère
c'est
du
vrai.
Travail et pas du ministère de la santé.
Oui.
Et donc, la préoccupation qui est la mienne comme ministre de la Santé, c'est que les médecins du travail aient la capacité de détecter, d'identifier à la fois les personnes qui sont malades, qui sont en souffrance, qui sont en difficulté dans leur environnement professionnel.
Bien, merci Marisol Touraine. C'était un peu bousculé ce matin parce que l'actualité nous a bousculé. À Bruxelles, on n'a pas de bilan pour l'instant. Il y aurait un mort et des blessés. Explosion à l'aéroport de Zaventem qui est fermé, les images, allez voir sur BFM TV, vous allez voir, les images sont parlantes, si je puis dire. Hein, si je puis dire. Donc, explosion à l'aéroport, double explosion qui a eu lieu peu après 8 heures, aéroport Bruxelles-Zaventem, donc un mort, premier bilan hein, pour l'instant, hein, c'est la police belge qui donne ce bilan, un mort et des blessés, nous allons y revenir évidemment dans un instant avec Raphaël Duchemin. Merci Marisol Touraine d'être venue nous voir, il est 8h57.
Bourdin Direct, RMC tout en direct.